RCF.
Une centaine de personnes des Côtes d'Armor et du Finistère ont passé une journée de réflexion autour de l'écologie intégrale. L'objectif de la journée, ensemble sur le chemin de l'écologie intégrale, il y a eu des partages d'expériences de ce qui se vit sur le terrain. Et ils avaient demandé à Elena Lacida de venir aider à la réflexion pour que le travail puisse se poursuivre dans les semaines et dans les mois qui viennent sur le terrain de différentes manières. Elena Lacida a porté pour la Conférence des évêques de France le projet Église verte après la publication du texte du pape François Laudato Si. Elle est théologienne, enseignante à la Cato de Paris, elle est aussi économiste. Et nous allons avec elle revenir un peu sur cette question d'écologie et d'écologie intégrale. On pourrait dire peut-être, pour commencer, Elena Lacida, que quand on parle d'écologie intégrale, ça devient un peu un mot tarte à la crème dont on met un peu à toutes les sauces aujourd'hui.
Oui, alors surtout en milieu chrétien. Voilà, écologie intégrale maintenant, et voilà, c'est un peu comme une étiquette, un tampon qu'on met partout. Mais bon, c'est un signe aussi qu'il y a quelque chose qui a commencé à rentrer dans les consciences. Après, voilà, il faut que ça se traduise dans des actes. Et je trouve que c'est vrai que c'est un mot et qui ne renvoie pas uniquement à une pratique concrète. Ça renvoie à toute une manière différente de regarder la réalité, de se situer dans le monde et d'établir des relations. Et donc, du coup, voilà, c'est un peu difficile. C'est ça qui ouvre à plein de significations et des appropriations différentes. Mais je pense que ce qui est intéressant, c'est de remettre toujours en question le mot, et de ne pas penser que voilà, on a une bonne définition, on a plein de définitions aujourd'hui, mais plus qu'une définition, c'est une manière d'être au monde.
Et pour comprendre cette manière d'être au monde qui sous-tend cette expression ou ces deux mots écologie intégrale, vous dites que la notion, l'idée centrale, c'est la question de la relation. Alors, est-ce que vous voulez nous expliquer ?
Je pense peut-être de faire le lien avec déjà écologie, puisque écologie, souvent, on le réduit uniquement à la gestion des ressources naturelles. Et en fait, vous savez, la définition d'écologie comme science, c'est la science qui étudie les relations entre les organismes vivants. Et donc, je trouve ça déjà très beau parce que ça rappelle que l'écologie, c'est la science des relations. Donc, la relation est au cœur de l'écologie. Contrairement à ce qu'on croit quand on pense en écologie, on pense à la nature comme des objets, voilà, la terre, l'eau, le climat, et qu'il faut gérer de manière respectueuse. Et là, l'écologie nous dit non, non, c'est comment on relie tous ces éléments, et y compris l'humain. Donc, c'est plus la question du vivant et de revisiter ce qui est la conception et la notion du vivant à partir de cette dimension relationnelle. Et de dire, et je pense que ça c'est propre à l'anthropologie chrétienne, de considérer que l'être humain est avant tout un être de relation. Et donc je dirais l'écologie intégrale vient nous rappeler ça de manière très forte. Il nous rappelle en fait que cette dimension relationnelle n'est pas exclusive de l'humain, elle est propre à tous les êtres vivants, et donc à toutes les créatures, les animaux, les végétaux, les minéraux. Et donc, du coup, c'est comment aujourd'hui on repense notre conception de la création, notre relation à toutes les créatures, notre place en tant qu'humain dans la Terre, à partir de cette idée que ce qui est avant tout important, c'est le type et la qualité des relations que nous établissons les uns avec les autres.
Et donc, c'est envisager la relation, non pas comme un moyen, mais comme quelque chose de tout à fait vital. C'est
oui,
ça, en fait.
Exactement. Parce que c'est vrai, de la relation, on parle depuis toujours. On dit, c'est bien être en relation et on le pense comme une valeur un peu acquise, en fait. Mais je pense qu'on la pense toujours comme, oui, comme vous disiez, comme un moyen pour, voilà, pour vivre mieux, comme un moyen pour obtenir certaines choses, pour satisfaire certains besoins. Et en fait, je pense que l'écologie intégrale rappelle que la relation est la vie même et donc elle est existentielle. C'est pas un moyen pour, mais la relation dit la vie. Et donc, voilà. Et donc aujourd'hui, il faut retrouver et revaloriser cette dimension relationnelle de la vie.
Une autre notion qu'on emploie beaucoup, c'est la notion d'environnement. Et là aussi, pour en revenir à cette question de la relation comme quelque chose de vital, le pape donne aussi une définition de l'environnement qui va dans ce sens de la relation.
Il va dire que l'environnement, contrairement à ce qu'on croit, parce que quand on dit environnement, on pense à cadre de vie, on pense à ce qui nous entoure, à ce qui nous environne. Il dit l'environnement, c'est la relation entre l'humain et la terre qu'il habite. Et donc, je trouve déjà génial parce que ça déplace cette conception un peu instrumentale de la nature, que ce sont des objets. Même parfois, quand on parle de respecter la nature, je pense qu'on la réduit à quelque chose que nous maîtrisons et que, bon, voilà, il faut maîtriser de manière respectueuse, mais nous continuons à maîtriser. Tandis que je pense que l'invitation du pape, c'est à dire, là, il y a une révolution à faire. Si on pense que la nature, c'est des êtres vivants au même titre que nous, les humains, donc ça veut dire que, voilà, là, il faut repenser complètement les relations avec la nature.
Voilà, c'est finalement repenser notre façon d'être à ce monde, entre hommes, avec le vivant, avec la nature, avec l'environnement. C'est un peu ça, peut-être, finalement, qu'il y a dans cette notion qu'a employé le pape quand il parle aussi de maison commune, d'une certaine manière, avoir un autre rapport, revisiter, réenvisager la manière d'être dans notre maison commune.
Oui, exactement. Cette image de maison commune qu'il emploie pour nommer la terre, en fait, je trouve qu'elle est très belle parce que c'est de dire la terre, c'est pas seulement un réservoir de ressources, c'est pas simplement un lieu voilà, où les gens habitent à côté des autres. Ça devrait être une maison et la maison, c'est un lieu où les gens, quand on habite dans une même maison, et il y a une relation privilégiée avec ces autres personnes. C'est un lieu d'intimité, et c'est un lieu où on se sent chez soi. Et je pense que voilà, l'écologie intégrale, c'est justement cette idée de faire de cette terre, pour chaque être vivant, une maison, un lieu où chacun peut se sentir chez soi. Et donc, d'où cette notion de maison commune. Et du coup, ce qualificatif d'intégrale prend un sens très particulier, parce que c'est vrai qu'intégrale, malheureusement, parfois a été associée à intégriste, à des choses qui sont tout le contraire, parce que ça renvoie à quelque chose de dogmatique, de figé. Et en fait, la maison commune, vous savez, à l'intérieur de la maison, on n'a pas d'étiquette, on peut se mettre en pantoufles, en pyjama, se détendre. Ben, voilà, la terre devait être un lieu où on se sent à l'aise, on peut être chacun soi-même. Et donc, justement, c'est tout le contraire d'un truc intégriste avec des dogmes à respecter.
Et donc, vous dites aussi, et vous l'avez évoqué longuement, que donc l'idée centrale qu'il faut avoir derrière la tête, c'est cette question de la relation. Mais quand on parle de relation, c'est intéressant de voir que, eh bien, il y a quatre types de relations qu'il faut tenir et de manière différente ensemble. C'est peut-être intéressant de les rappeler.
Oui, tout à fait. Le pape dit, il y a la relation à soi, la relation aux autres, la relation à la nature et la relation à Dieu. Et donc, voilà, ça aussi, ça dit un petit peu la dimension intégrale de l'écologie, puisque ça touche toutes les dimensions, l'individuel, le collectif, le naturel et le spirituel. Et donc, ce qui me semble aussi très important à souligner, c'est que c'est pas que ça concerne l'ensemble de ces quatre relations, mais que là, l'enjeu, c'est aussi comment on fait jouer l'interdépendance entre chacune de ces relations et de ne pas les opposer, parce qu'on oppose très souvent l'individuel au collectif, ou le collectif à la nature, le social à la nature, ou le social au spirituel, le matériel au spirituel. Et donc, c'est un peu de sortir de ces classifications, voilà, qui segmentent, qui fragmentent la vie, et de dire, en fait, la vie se tisse à travers toutes ces dimensions qui rentrent en lien, en fait.
À ce monde que tu fais chaque jour avec tendresse,
Sur RCF, nous parlons écologie intégrale avec Elena Lacida. On a vu une idée centrale quand on parle d'écologie intégrale, cette question de la relation. Nous allons nous arrêter maintenant à trois principes qui structurent un peu cette réalité. Je les cite et puis après, on va essayer de comprendre. Premier principe, tout est lié. Deuxième principe, tout est donné. Et troisième principe, tout est fragile. Alors voilà, c'est facile à entendre comme ça, mais si on s'y arrête de plus près, peut-être que c'est intéressant de s'arrêter d'abord. Qu'est-ce qu'on dit quand on dit « tout est lié » ? Parce que peut-être que c'est une expression qu'on emploie, hein, qu'on entend dans le langage un peu courant, mais c'est quand même un peu plus complexe que ça. De quoi s'agit-il ? Que veut-on dire quand on dit « tout est lié » ? Et peut-être que c'est intéressant de s'arrêter sur une notion très importante, c'est la notion de l'interdépendance.
Je pense que, comme vous disiez, tout est lié souvent est devenu quelque chose qu'on répète comme si c'était une évidence. Et en fait, voilà, je pense qu'au contraire, dans nos sociétés aujourd'hui, c'est un défi énorme de relier les choses, de passer justement à l'interdépendance. En fait, je pense qu'on est dans des sociétés où l'autonomie est pensée avant tout en termes d'indépendance. Et voilà, on fait tout pour être indépendant. Vous voyez, pour les gens, et quand ils arrivent à l'âge de la retraite, qu'ils deviennent plus âgés et donc plus dépendants, on met en place plein de moyens pour justement que la personne puisse rester indépendante le plus possible. Les jeunes ne rêvent que d'une chose, que d'être indépendants de leurs parents. En fait, il y a cette idée que l'indépendance est un peu la valeur absolue. Et en fait, ce que j'entends que dit Laudato aussi, c'est que le but, ce n'est pas d'être indépendant. Parce qu'indépendant, ça veut dire autosuffisant, ça veut dire qu'on n'a pas besoin des autres. Et il dit, en fait, le but, c'est au contraire l'interdépendance. C'est-à-dire le fait que chacun a quelque chose à donner et quelque chose à recevoir de l'autre. Et donc, le tout est lié, c'est un petit peu ça. C'est de dire, est-ce que les relations que nous établissons avec les autres personnes et avec toutes les autres créatures, les animaux, les végétaux, etc., sont des relations d'interdépendance. Et est-ce que nous les prenons dans ce sens de nous donnons quelque chose et nous recevons quelque chose d'eux. Et voilà, donc c'est un petit peu ça ce qu'il y a pour moi derrière ce premier principe qui est central et qui renvoie encore une fois à la dimension relationnelle.
Qui suppose, on peut dire, des conversions pour essayer de vivre justement cette interdépendance, ce n'est pas ce à quoi on est forcément porté de manière naturelle.
Oui, non, tout à fait. Je pense que, comme je disais, on est poussé plutôt à être quitte de tous. On ne veut pas avoir des dettes, on ne veut pas on veut se souvenir chacun à ses propres besoins. C'est l'idée que si on n'a pas besoin des autres, en fait, je pense que c'est la manière la plus claire de ne pas choisir la vie, de choisir la mort, parce que c'est se couper. Si on coupe les relations parce qu'on dit qu'on n'a pas besoin, ben, je pense que c'est une manière de se suicider, parce que l'être humain, en fait, mais tout être vivant, et c'est ce qui nous rappelle aujourd'hui fortement la nature, c'est que chaque être vivant, pour vivre, a besoin des autres. Et c'est ça, la nature nous apprend quelque chose, nous réapprend l'interdépendance de la vie, parce qu'on sait bien que la pollinisation, c'est quoi ? C'est que les fleurs ne peuvent pas se reproduire s'il n'y a pas les abeilles qui vont porter, qui vont faire communiquer les fleurs entre elles. Donc, et tout est comme ça, en fait, dans la nature. Tandis que nous, on a choisi plutôt, on devient chacun expert d'un truc, et pour ça, je suis le seul et le meilleur, s'il vous plaît. Moins j'ai besoin des autres, mieux c'est. Et voilà, et c'est un peu inverser cette logique. Et vous voyez, c'est là où je dis que c'est révolutionnaire, parce que tout est construit dans le sens inverse.
Premier principe, tout est lié. On a essayé d'expliquer et de bien parler de cette question de notion d'interdépendance. Deuxième, tout est donné. Alors, quand on entend tout est donné, on entend... Qu'est-ce que ça veut dire ? Il y a la notion de gratuité qui vient derrière. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire là-dessus ? Comment comprendre cette expression et qu'est-ce que ça va devoir changer dans nos manières d'être et de vivre si on essaye de vivre de ce principe ?
Le tout est donné, pour moi, c'est un autre principe fondamental de l'encyclique, parce que c'est de dire que, vous savez, on se situe face à la nature, notamment, en propriétaire. comme si voilà, elle nous appartenait. Donc on est respectueux et on veut la gérer de manière respectueuse, mais on reste le maître. Et en fait, voilà, ce que le pape nous rappelle très fortement, c'est que la terre ne nous appartient pas, qu'elle nous a été donnée. Et donc du coup, il faut qu'on la traite comme ça, comme un don. Quand on reçoit un cadeau, et c'est un don énorme qu'on a reçu, mais elle ne nous appartient pas. Et donc, pour moi, ça, c'est une invitation à remettre la gratuité au cœur de nos relations. Et pour moi, ça veut dire qu'on sort des relations uniquement instrumentales ou utilitaires. Et quand je dis instrumental, utilitaire, on voit bien que c'est quelque chose de négatif. Donc, on va très vite dire non, mais moi, je ne suis pas dans l'utilitaire et dans l'instrumental. Et pourtant, je pense qu'on l'est tous, même quand on fait des projets de solidarité. Voilà, et on est dans l'utilitaire parce que la première question qu'on va se poser, c'est à quoi ça sert? Est-ce que ça sert à quelque chose? Combien de personnes j'ai aidé? Combien de personnes sont venues à la conférence que j'ai organisée? Combien de repas j'ai distribué? On est toujours à évaluer le résultat. Donc, est-ce que c'est utile? Est-ce que ça sert à quelque chose? Et c'est un petit peu de dire, voilà, il y a à valoriser autre chose que l'utilité de l'action. C'est un petit peu de dire, voilà, qu'est-ce que j'ai vécu en faisant ça? Et qu'est-ce qui s'est créé comme relation avec l'autre? Peut-être ça n'a servi à rien, je ne lui ai pas donné à manger, il ne m'a rien donné en échange, mais on a vécu un moment ensemble. Et la gratuité, c'est ça pour moi, et c'est cette relation de réciprocité, et non pas de don unilatéral, mais de réciprocité, dans laquelle on échange quelque chose qui n'est pas régulé par l'utilité. Et je pense que, encore une fois, comme je disais, même dans nos projets solidaires, non payants, voilà, on reste malheureusement dans la logique de l'utilitaire.
Sur RCF, avec Elena Lacida, nous continuons d'évoquer l'écologie intégrale et l'encyclique du pape François Laudato Si autour des trois principes qui font un peu comme un fil conducteur dans cette encyclique. On a évoqué tout est lié, tout est donné. Troisième principe, tout est fragile. Et vous reliez la fragilité avec la créativité. Alors là, il faut nous expliquer.
Oui, parce que quand on dit fragilité, on pense à des choses qui, aujourd'hui, sont faibles, qui ne marchent plus. Voilà, on pense à des choses qui sont cassées, à des choses qui sont défaillantes. Et on a des exemples multiples autour de nous et à l'intérieur de nous-mêmes de cette fragilité. Et en général, quand on est confronté à la fragilité, la première chose à laquelle on va penser, c'est à réparer, pour justement retrouver ce qu'on connaissait. On est malade, on est fragile, on va se soigner pour retrouver une bonne santé. Voilà, on va réparer ce qui ne fonctionnait pas. Et en fait, moi, ce que j'entends, c'est que le pape nous dit, quand il parle de la fragilité à laquelle on est aujourd'hui confronté au niveau de la terre et au niveau des humains, il nous dit que surtout, il ne faut pas réparer. Et que ce qu'il faut faire, c'est profiter de cette cassure, de cette rupture, de cette défaillance qu'il faut profiter pour faire naître du nouveau, pour créer du radicalement nouveau. Et donc, voilà, et donc je trouve que là, vous voyez, la fragilité devient, c'est plus une menace, devient une promesse de vie nouvelle. Et donc, du coup, ça change complètement la manière de se situer face à tout ce qu'aujourd'hui on sent qui nous menace, oui, qui nous met en danger, et de dire, mais peut-être là, c'est l'occasion pour inventer du nouveau. Vous savez, dans notre vie, je pense que nous faisons cette expérience tout le long de notre vie, chacun de nous, on a tous vécu un projet qui a échoué. Voilà. Et je pense que c'est quand un projet auquel on tenait échoue, qu'on se pose vraiment la question, est-ce qu'on peut faire autrement? Est-ce qu'on peut faire autre chose? Tant que ça marche, on ne se pose pas la question de faire autrement. Donc c'est quand ça ne marche pas que vraiment on crée les conditions pour inventer du nouveau. Donc voilà, je pense qu'il y a ça derrière, le tout est fragile. Et voilà, et cette invitation aujourd'hui à dire, ben voilà, c'est une chance inouïe, historique. Parce qu'aujourd'hui, tout déraille. Ben, le Covid, personne ne l'attendait. Il a paralysé le monde entier. On n'aurait jamais imaginé que ça pouvait arriver dans notre monde où on maîtrise tout et on contrôle tout. Ben voilà, on voit bien qu'on est très fragile. Eh ben, profitons de ça pour inventer du nouveau.
Est-ce qu'on ne peut pas dire que là aussi, en vous entendant, je me disais, tiens, peut-être que ça peut avoir quelque chose ou un lien avec le mystère pascal, finalement. Accepter de la mort pour trouver une vie nouvelle, différente, on est peut-être dans cet ordre-là aussi.
Ah oui, absolument, absolument. Et pour moi, cette expérience de la mort qui génère de la vie nouvelle est une expérience profondément humaine, mais que justement le mystère pascal vient, comment dire, donner de l'épaisseur à cette expérience humaine. C'est pas quelque chose de magique, c'est vraiment le sens de quelque chose que, à mon avis, on le vit toujours en tant qu'humain et qui dit, vous voyez encore là, je pense qu'il y a une révolution des consciences à faire parce que on oppose la vie et la mort. Et en permanence, on est en train de dire, voilà, il faut essayer de repousser autant que possible la mort et de protéger la vie. Vous voyez tout ce qu'on fait pour durer le plus longtemps possible. On a horreur de la mort dans nos sociétés. Et en fait, là, ce qu'aujourd'hui nous dit la fragilité et nous dit le mystère pascal, c'est que, au contraire, c'est de la mort qui naît la vie nouvelle. Et donc, qu'il faut arrêter de les opposer et qu'il faut les penser ensemble. Et donc, voilà, pour moi, là, c'est une révolution mentale.
Pour avancer encore, on a entendu hein, les trois principes que vous avez évoqués. On va regarder justement maintenant quelques liens que vous proposez de privilégier pour vivre dans l'interdépendance, dans la gratuité, dans la créativité. Le premier lien que vous proposez, c'est un lien de communion. Alors voilà un mot un peu tarte à la crème aussi, beaucoup employé. Qu'est-ce que vous entendez et pourquoi ça peut être important de privilégier un lien de communion pour être dans cette dynamique, on peut
Oui.
dire?
Alors, en effet, là, comme vous dites, c'est encore un mot au niveau de la communauté humaine et encore au niveau de la communauté chrétienne est très utilisé au risque justement que ça devienne un peu bisounours. Il faut être en communion, on s'aime les uns les autres, on est gentil, on est bienveillant. Bon, voilà. Et en fait, je pense que c'est pas du tout ça la communion. La communion, c'est beaucoup plus pour moi comment chacun se laisse déplacer par l'autre. Sinon, ce qu'on produit, c'est uniquement de la fusion, de l'uniformité. Et vous savez, le pape, dans la joie de l'évangile, a en place ces images que je trouve sont très belles et pour moi, ça dit vraiment ce que c'est la communion. Il va opposer un petit peu l'image de la sphère à celle du polyèdre. Et il va dire, voilà, la sphère, c'est un ensemble, c'est un commun en fait, mais où tous les points sont indifférenciés. Quand vous voyez un ballon de football, en fait, vous ne voyez pas chacun des points ou des particules qui le constituent est pareil aux autres. Chacun a la même distance vers le centre. Tandis que le polyèdre, c'est aussi un commun, c'est aussi un ensemble, ça fait un tout. Mais dans le polyèdre, chaque composant garde sa singularité. Parce que vous voyez, le polyèdre, c'est un petit peu comme le diamant, voilà, et quelque chose où on voit un petit peu les différentes facettes, mais ça fait quand même un tout. Et voilà, pour moi, la communion à laquelle on est invité, c'est cette communion qui est polyèdre plutôt que sphère, qui met les différences en dialogue plutôt que de les uniformiser. Et voilà, et donc je pense que c'est ça à quoi on est appelé, et que là, l'enjeu est énorme, parce que ce n'est pas seulement la communion entre les humains, et Dieu sait déjà que c'est pas évident, mais avec tous les êtres vivants, avec toutes les créatures. Et donc, du coup, voilà, c'est rentrer en communion avec autant les animaux qu'on aime bien, mais surtout avec ceux qu'on n'aime pas du tout, et qui nous font du mal, qui nous piquent, voilà, qui nous blessent. Et donc, voilà. Et donc, voilà. Mais j'insiste sur cette idée que la communion, c'est pas le rapprochement avec ceux qui sont pareils à nous. Mais c'est au contraire cette capacité à faire rentrer à l'intérieur de nous-mêmes celui qui est le plus différent.
Autre lien à privilégier, donc pour vivre dans cette dynamique hein, de l'interdépendance, de la gratuité, de la créativité, vous employez deux verbes, c'est contempler et célébrer. Alors, qu'est-ce que ça veut dire?
La gratuité, comme je disais, c'est justement sortir de la logique de l'utile. Et donc, du coup, voilà, je pense que c'est difficile hein, de ne pas être dans l'utile. Et je pense que la contemplation est justement quelque chose qui nous permet de. C'est un exercice qui nous permet de sortir d'un rapport utilitaire. Vous voyez, quand on contemple la nature, on n'est pas dans ce rapport de dire, bon, comment je vais l'exploiter, qu'est-ce qu'elle va produire cette terre, qu'est-ce qu'elle va me donner. Quand on contemple la mer, la montagne, on n'est pas dans cette relation d'utilisation, d'appropriation, de manipulation. Et voilà, donc je pense que la contemplation est quelque chose qui peut nous aider justement à faire place à la gratuité. Et puis la célébration, parce que la célébration aussi n'est pas dans le registre de l'utile. La célébration, ce n'est pas pour obtenir quelque chose. La célébration, c'est pour pouvoir symboliquement dire ensemble, reconnaître ensemble ce qui est source de vie pour nous. Et donc, voilà. Et je trouve que dans ce monde où, voilà, autour de plein de situations de mort, on commence à voir des germes de vie nouvelle, ces germes, il faut les célébrer. Parce qu'ils sont petits, parce qu'il faut les aider à se développer. Et les célébrer, c'est les reconnaître. Et donc, voilà, c'est un petit peu ça. Et contempler et célébrer, pour moi, c'est une manière, justement, de faire place à la gratuité.
Pour le dire d'une autre manière, est-ce qu'on pourrait pas dire ou appeler ça retrouver quelque part la théologie de la grâce ?
Oui, tout à fait, tout à fait. La grâce, vous voyez, grâce et gratuité, c'est un peu la même racine. Et donc, tout à fait, c'est la grâce, c'est un petit peu ça. C'est reconnaître ce que nous recevons, qui n'est pas notre fabrication, qui n'est pas notre production, qui n'est pas notre mérite, qu'on le reçoit comme ça. Et ben voilà, c'est ça, la grâce, la gratuité, oui, tout à fait.
Et pour terminer, vous invitez à penser la création comme autre chose que de la fabrication. Alors là, il faut expliquer. En fait, vous dites, ben, on n'est pas tous des ingénieurs, en fait.
Oui, exactement. Parce que je reprends en fait une distinction que fait Anna Arendt. Elle va différencier justement fabrication de création. Elle dit la fabrication, c'est un peu le travail de l'ingénieur dans le sens que c'est quand nous faisons quelque chose, nous commençons par faire un plan, un projet, objectif, moyen, résultat, voilà. Et puis, on le met en application. Et donc là, on contrôle tout, on maîtrise tout et on sait bien quel est le résultat qu'on doit obtenir. Et elle dit, ça, c'est pas la création. Ça, c'est pas la création. La création, c'est quand on permet que le nouveau, l'inattendu, l'imprévisible puisse apparaître. Et donc, c'est plutôt le vide, plutôt que tout le plan bien, bien fait, c'est le vide qui rend possible justement l'émergence du radicalement nouveau. C'est le travail, alors voilà, tous les gens qui sont dans l'art, voilà, on peut dire qu'ils s'inscrivent un peu dans cette logique, mais sans être tous des artistes, on l'est, je pense, tous un petit peu. Mais Anna Arendt dit associe la création à l'activité du bricolage. Et donc, pour dire justement, alors peut-être pour opposer ou pour différencier du travail de l'ingénieur, c'est un travail voilà, un peu artisanal, tâtonnant, expérimental, dont le résultat est souvent très différent de celui qu'on cherchait, mais qui fait apparaître du nouveau, qui fait apparaître de l'inattendu. Donc la création, c'est ça. Si ce qu'on produit, c'était ce qu'on avait déjà dans nos têtes et qu'on cherchait à produire, donc là, on n'a pas créé, on n'a pas été créateur. Et le créateur, on peut dire qu'on est devenu créateur quand on a commencé à faire quelque chose et ce qui arrive est différent de ce qu'on attendait, mais voilà, mais ça nous apporte quelque chose de radicalement nouveau.
Une dernière question pour terminer. Au cours de cette journée, on a pu entendre des expériences qui se vivent concrètement sur le terrain pour vivre dans cet esprit justement de Laudato Si, de l'écologie intégrale. Finalement, on est dans cette dynamique où des choses petites s'essayent sans qu'on sache très bien où on va, où ça se cherche. C'est ça aussi finalement qui est intéressant. C'est là qu'on rejoint, quand vous parliez de création, c'est pas forcément où on va, mais on est dans une dynamique où eh bien, on sort un peu de nos schémas pour essayer d'autres choses de possibles.
Oui, tout à fait, tout à fait. Je pense dans cette journée, voilà, on a partagé plein des pratiques, le projet ici pour l'île Blanche, la ferme qui est en train de se développer pour les pères de Saint-Jacques, voilà, le projet porté par le CCFD, par CVX, par le CMR, par Église Verte, voilà, plein des initiatives qui essayent chacune d'une manière différente, de vivre, de rendre de vraiment de la réalité à cette écologie intégrale. Et vous savez, pour moi, le plus important aujourd'hui, c'est que voilà, on a créé un espace où tous ces gens-là se retrouvent, se reconnaissent mutuellement, et peut-être on commence à créer une certaine interdépendance entre tous ces projets-là.
Elena Lacita, merci beaucoup.